le Vior et ses trésors. La gestion d'un bassin versant. Une émission proposée par Virginie Pendariès. Prenant sa source au Puège du Pal, dans le Lévezou, à 1090 mètres d'altitude, le Vior conflue avec l'Aveyron à Laguépy, après un parcours de 163 km. Outre sa rivière principale, le bassin versant du Vior compte 110 ruisseaux. Ce territoire, riche de diversité, est à la croisée de multiples enjeux, aussi bien écologiques qu'économiques. À Nocelle, dans les bureaux du syndicat mixte du bassin versant du Vior, Karine Lacan nous explique comment ce territoire fait l'objet d'une gestion concertée. Karine Lacan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du syndicat mixte du bassin versant du Vior, donc à ce titre spécialiste des problématiques du Vior et de son environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les particularités de cette rivière, les richesses qu'on y trouve, quels sont ses intérêts principaux ?
Donc le territoire du bassin versant du Vior, donc on parle de bassin hydrographique, hein, c'est-à-dire que c'est un territoire délimité géographiquement par, on peut dire, toute goutte d'eau qui tombe sur ce territoire rejoindra à plus ou moins longue échéance la rivière principale. Donc ça veut dire qu'on s'étend sur trois départements, Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne, et on travaille pour 89 communes. Donc ce territoire, c'est un grand territoire, 1530 km², avec une caractéristique particulière, c'est que c'est un territoire très rural, avec une activité essentiellement orientée vers l'élevage. Alors on a une densité de population qui est d'environ 20 habitants au kilomètre carré, qui est en deçà de la moyenne départementale et de la moyenne nationale. Voilà. Donc ce territoire en termes de particularité, c'est un territoire donc qui a gardé un aspect sauvage de la source à la confluence, qui est très riche en termes de biodiversité, de diversité de milieux, hein, puisque on va retrouver sur ce territoire des influences climatiques très diverses, donc l'influence montagnarde plutôt sur le Lévezou, une influence océanique, une influence méditerranéenne, qui vont nous permettre justement de retrouver cette grande diversité de faune et de flore adaptée à ces milieux-là, quoi. On a aussi dans ces grandes vallées encaissées une faune particulière. Je pense notamment à des différents types d'oiseaux qui sont le grand corbeau, le faucon pèlerin, l'hibou grand-duc, qui sont des espèces emblématiques aussi de la vallée, quoi.
Qu'on ne trouve pas forcément partout.
Qu'on ne trouve pas forcément partout et qui, à ce titre-là, sont protégés aussi.
D'accord. Alors justement, est-ce que le Vior et son bassin versant font l'objet de certaines menaces ? Est-ce qu'il a des faiblesses ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention ?
Alors nous, notre rôle au niveau du syndicat mixte du bassin versant du Vior, c'est de mettre en place des conditions favorables à une concertation entre l'ensemble des usagers de la ressource sur ce territoire. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un premier contrat rivière et on met en place un deuxième contrat rivière et on travaille pour un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ces outils-là, avec ces noms on peut dire un peu barbares, ont pour objectif justement de mettre l'ensemble des usagers autour de la table et de définir ensemble qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire et comment on veut le gérer. Alors, au niveau de la faune et de la flore, les usages font que on va avoir des interventions sur le milieu qui font que ces espèces vont se raréfier. Sur la quantité d'eau, on va avoir aussi des tensions à certaines périodes de l'année qu'il va falloir organiser et se dire entre usagers comment est-ce qu'on peut fonctionner au mieux, etc. Donc c'est vraiment sur toutes les thématiques, qu'elles soient au niveau quantitatif, qualitatif ou gestion des milieux naturels, ce travail de concertation et ensemble de définir qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire et comment on va le gérer.
D'accord.
Voilà, ça c'est notre rôle. Nous, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. On est simplement là pour mettre les gens autour de la table et c'est ces acteurs-là qui vont définir ensemble les règles de gestion.
Alors justement, qu'est-ce qui a été défini ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Alors pour l'instant, on en est au tout début du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc les grandes orientations et les grands objectifs dans le cadre de ce SAGE n'ont pas encore été définis. C'est tout le travail qui s'ouvre devant nous pour l'année 2012, voire 2013, que de définir les objectifs pour notre territoire. Donc c'est un travail qui va s'étendre sur au moins 5 ans, hein, qui vise à planifier la gestion de l'eau sur le territoire. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dans ce cadre-là qu'on met les acteurs autour de la table et qu'on définit les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble les règles de gestion de ce territoire sur la problématique qualité, sur la problématique quantité, qui prélève, quand, où, comment, pourquoi faire. Tout ça, ça va être défini dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment le cœur de la gestion de l'eau du territoire qui va se définir dans les années à venir. Voilà.
D'accord. Et donc, justement, ces acteurs, c'est à la fois des institutionnels, des particuliers, des associations, c'est qui ?
Alors, les acteurs sont regroupés dans ce qu'on appelle la commission locale de l'eau, la CLE. Et on a 50% d'élus du territoire. C'est très cadré hein, comme travail. Donc, 50% d'élus du territoire, c'est des maires, des conseillers municipaux, des conseillers généraux, régionaux, etc. 25% minimum d'usagers. Donc, quand on dit usagers, on entend... agriculteurs, donc c'est des représentants de la Chambre d'agriculture, les kayakistes, les pêcheurs, Électricité de France, les gens qui possèdent des moulins qui se sont regroupés en association, ça peut être les riverains, les randonneurs, c'est les usagers du territoire. Et le dernier 20% maximum, hein, c'est les institutionnels, donc avec l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, la direction départementale des territoires, qui font partie de ces collèges-là.
D'accord. Voilà. Ok.
Et c'est ce groupe, hein, donc de la commission locale de l'eau, qui va piloter le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et décider qu'est-ce qu'on y met dedans, quelles sont les règles qu'on s'impose à nous-mêmes. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que c'est vraiment les acteurs du territoire, hein, les usagers, qui mettent en place leurs règles de gestion. C'est pas quelqu'un qui descend de Paris, comme souvent je l'entends.
Oui, on a encore cette image.
On nous impose ceci ou cela. Oui. Non, là, c'est vraiment le territoire qui s'organise et qui dit, nous, on va travailler comme ça et on va gérer notre ressource naturelle comme ça.
D'accord.
Voilà. Et ça me paraît un privilège important, quoi.
Oui, évidemment.
Voilà. Alors, par contre, dans le cadre du contrat rivière, qui est lui un outil plus contractuel, ou plus pragmatique, plus pratique, de nombreuses actions ont été mises en place, tant sur l'amélioration de la qualité de l'eau, je pense notamment à un travail avec les collectivités sur la problématique assainissement collectif, avec les particuliers sur l'assainissement non collectif, un gros volet avec les agriculteurs dans le cadre de ce qu'on appelait un programme d'action territoriale, dans lequel on les accompagne vers du changement de pratique, vers une meilleure gestion. Voilà. Donc ça, c'est des actions qu'on mène et qu'on va continuer à mener sur le bassin versant du Viaur. On a bien sûr aussi un gros volet, c'est souvent pour ce volet-là que les gens et les habitants nous connaissent, qui est un volet de restauration et d'entretien de la végétation. Donc là, on a, dans le cadre du syndicat, une équipe d'agents d'entretien en régie de 6 personnes qui quotidiennement font des travaux d'entretien de la végétation. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je dirais, notre cœur de métier, que ces travaux de restauration et d'entretien de la végétation des bords de berge. Et on intervient toujours avec le propriétaire et avec son accord, hein, puisqu'on est toujours sur la propriété privée, et souvent aussi avec un coup de main du propriétaire.
D'accord. Ça fait combien de temps que vous intervenez sur le territoire ?
Alors, le syndicat, cette structure a été mise en place en 1998 sous une autre forme, et le syndicat a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui en 2004.
D'accord. Voilà.
Donc, je dirais que ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on a une équipe en régie qui est en permanence sur le terrain.
Okay. Voilà. Donc, vous avez assez de recul pour voir un petit peu l'évolution de la qualité à la fois des eaux et de l'environnement sur ce bassin versant.
Je dirais 10 ans à notre échelle, ça peut paraître long. 10 ans à l'échelle de la rivière, c'est rien du tout.
C'est rien du tout.
Dire aujourd'hui la qualité de l'eau a évolué dans tel ou tel sens, c'est compliqué, je ne m'y hasarderai pas. Cela étant, on peut quand même tirer quelques enseignements. On voit très bien sur certains points ou secteurs où des travaux importants ont été faits, notamment sur de l'assainissement collectif, sur de la mise aux normes de bâtiments d'élevage, une très nette amélioration de la qualité des eaux. Et sur d'autres secteurs, on peine à voir cette amélioration-là, quoi. Mais ça semble aussi logique. Je dirais, il a fallu une cinquantaine d'années pour que les ruisseaux, je parle au niveau national, se dégradent. Donc, on n'a pas de baguette magique pour en 10 ans.
D'accord. Et parce que, on entend un peu de tout. C'est vrai que les gens disent, depuis je ne sais pas combien d'années, on trouve que le Vior a un niveau plus bas, ou le Vior est plus trouble. Ou, enfin, c'est vraiment des échos qu'on a comme ça, scientifiquement. Est-ce qu'il y a, eu des preuves de ça, ou pas du tout? C'est vraiment...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les débits sont régulés par une réglementation particulière. Le Vior a la particularité d'avoir sur sa tête de bassin deux grands barrages qui ont pour objectif la production hydroélectrique, hein, donc Pont-Salar et Parlou, et puis aussi sur la partie plus aval, donc le barrage de Turiès. Ces trois barrages sont propriété de l'État et ont été concédés à EDF. Hein, donc aujourd'hui, leur priorité est la production d'énergie hydroélectrique. Et ensuite, ils sont aussi sollicités pour ce qu'on appelle le maintien d'un certain niveau d'eau en période d'étiage. Donc, ils sont aussi sollicités, mais dans un cadre plus large, à l'échelle du Grand Bassin Aveyron, pour lâcher de l'eau en période d'étiage quand il en manque dans les cours d'eau pour soutenir les débits. Hein, donc, on a sur ce territoire-là, ben, je dirais, des enjeux quantitatifs importants. Ça peut expliquer la variation des débits. On a des lâchers effectivement d'eau qui sont réalisés l'été pour soutenir ces débits d'étiage. Donc l'été, on peut avoir une certaine variation des débits. On peut aussi avoir une variation des débits liée à l'hydrologie, tout simplement. Hein. Ça, chacun le comprendra. Parce qu'il faut savoir aussi que les cours d'eau du bassin versant du Vior, naturellement, sont des cours d'eau dits à régime torrentiel, c'est-à-dire très hautes eaux l'hiver et très basses eaux l'été. Hein, donc on a une amplitude de débit sur le territoire qui peut être assez forte. Quoi.
D'accord.
Voilà. Okay.
Et donc, et au niveau qualitatif, quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur la qualité de l'eau?
Alors, les principaux paramètres déclassants sur ce territoire sont des paramètres, sur les trois paramètres suivants. C'est un, les matières en suspension, c'est tout ce qu'on, toutes les particules très fines, hein, qui sont transportées par la rivière et qui viennent colmater les fonds des cours d'eau. Hein, donc ça pose des problèmes en termes d'auto-épuration de la rivière, hein, puisque la rivière a une capacité à se nettoyer elle-même. Mmh. Et ça pose aussi des problèmes par rapport à la vie aquatique, puisque c'est sur les fonds de cours d'eau que les poissons vont pondre, la vie aquatique va se développer. Donc à partir du moment où ces fines se déposent, le sol n'est plus assez oxygéné pour pouvoir rendre ces services-là. Quoi. Donc les matières en suspension qui proviennent, ben, je dirais, de l'érosion qu'on peut voir partout sur le territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on a une problématique nitrate, liée au nitrate, mais qui somme toute est tout à fait logique par rapport à l'activité du territoire. Hein. On serait dans un secteur très industrialisé, ben, on aurait des problématiques, je ne sais pas, de plomb, d'arsenic, etc. Donc nous, on est un territoire très agricole, ben, on a des problématiques dans nos cours d'eau qui sont liées à cette activité-là. On voit une amélioration, je dirais, par rapport à cette problématique, dans le sens où on a pu en relever, il y a 5 ou 6 ans, hein, des grands pics de nitrate. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une nette amélioration. Et on le lit souvent, alors on n'a pas de preuves scientifiques au sens littéral du terme, mais on le lit souvent à tout le travail qu'ont fait les agriculteurs et tous les investissements qu'ils ont pu faire dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d'élevage.
D'accord.
Voilà. Alors aujourd'hui, donc ça s'est très nettement amélioré. Par contre, on voit toujours un bruit de fond, hein, sur cette problématique nitrate qui est présent et qui, lui, ne diminue pas. Mmh. Voilà. Mais on reste en dessous des seuils, pour les eaux de surface, des seuils de 50 mg par litre de nitrate par rapport à la problématique potabilisation de l'eau. Alors ce seuil-là est important puisque au niveau sanitaire, la règle, c'est une eau brute, donc ça veut dire une eau qui coule en rivière, de plus de 50 mg par litre, est impropre à la production d'eau potable pour être distribuée. Voilà. Donc nous, sur le bassin versant du Vior, on est en deçà de ce seuil-là. Voilà. Mais par contre, si on parle de seuil par rapport à la vie biologique, là, on a beaucoup plus de difficultés puisque c'est fonction des espèces et fonction un petit peu des exigences qu'on peut avoir en termes de productivité des milieux aquatiques.
D'accord. Oui, des espèces qui sont plus fragiles que d'autres par rapport à ça. Alors, en parlant d'espèces, justement, donc moi, je suis originaire de la Salute PRLS, on parle beaucoup des écrevisses, là-bas, au bord du Vior. Donc, voilà, soi-disant qu'à l'époque de mon grand-père, il y en avait énormément, après, il n'y en a plus, et apparemment, il y en a à nouveau. Est-ce que vous avez des données par rapport à ça?
Oui, on a des données par rapport... Alors, vous faites référence à ce qu'on appelle les écrevisses à pattes blanches.
Voilà, pas les américaines. Hein,
qui sont différentes des écrevisses américaines. Qui, pour les écrevisses américaines, sont une espèce indésirable. Donc là, on a obligation de les tuer si jamais on empêche, sur les écrevisses américaines. Donc, pour revenir sur l'écrevisse à pattes blanches, effectivement, il y en avait beaucoup sur le bassin versant du Vior. Alors, il y avait différents ruisseaux qui étaient très bien, je dirais, servis pour l'écrevisse à pattes blanches. Aujourd'hui, ces populations-là ont été mises à mal. Donc, on a très peu de populations qui sont encore dynamiques sur le territoire. Cela étant, on en a et on en connaît de plus en plus. Mais est-ce qu'on les connaît mieux parce qu'on les cherche davantage? C'est aussi ce principe-là. On ne trouve que ce qu'on cherche. Donc,
oui, évidemment.
Il faut se méfier aussi, je crois, de ça. Donc, on a quand même des populations qui sont bien présentes sur le territoire, qui sont en bonne santé, mais elles sont effectivement disséminées sur certains cours d'eau. Alors, je ne vous dirai pas lesquelles.
Ah bah, ça va rester secret, évidemment.
Voilà. Bon, on a aussi parlé du saumon atlantique sur le Vior. Il y a eu des tentatives de réintroduction. Bon, aujourd'hui, je crois que on n'en parle plus.
Hein,
et je crois que c'est peut-être pas l'objectif que faire revenir le saumon sur le Vior. Pourtant, on sait, d'après des archives, que le Vior a été très riche en saumon. Hein.
Ah oui.
Voilà. Oui, il y avait notamment, pour la petite anecdote, il y avait notamment des contrats de location d'ouvriers agricoles, hein, donc des personnes qui se louaient de ferme en ferme et qui avaient donc des contrats de location. Et dans les contrats de location, il était très clairement spécifié qu'ils ne voulaient pas manger du saumon plus d'une fois par semaine.
Il y en avait tellement qu'ils en étaient écœurés.
Voilà, ils en avaient.
Ah, c'est
voilà. Donc ça veut dire que bon, globalement, il y avait quand même un milieu qui était propice pour cette espèce-là. Quoi.
Et donc au niveau de vos activités dans le cadre du contrat de rivière, donc mis à part l'entretien des berges, la préservation des milieux, il y a aussi une action de sensibilisation un petit peu du public, d'éducation à l'environnement. Comment vous y prenez pour cette
espèce? On a un gros volet communication, sensibilisation, information. Donc, on a plusieurs actions dans ce cadre-là, en fonction des publics qu'on souhaite sensibiliser. Donc, on a une intervention auprès des écoles primaires, par exemple, puisqu'on travaille avec le CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux et la Fédération Départementale de Pêche, pour réaliser dans les écoles, il y a à peu près 70 écoles primaires sur le territoire, pour réaliser dans ces écoles 150 demi-journées d'animation par an. On travaille aussi avec les écoles sur des projets éco-écoles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est un projet à long terme qui associe l'école, les parents et les associations du village. Donc qui rayonne plus largement, qui part de l'école, mais qui rayonne plus largement dans la vie du village. Après, on a tout un travail sur les bulletins d'information. On a aussi un site internet. Donc c'est rivière-vior.com, donc qui reprend toutes les actions qu'on mène, qui donne des informations sur l'état justement de nos cours d'eau suivant les problématiques avec différents angles d'entrée. On fait la fête du Vior, donc cette année elle aura lieu donc le 15 pour les scolaires et le 17 juin sur le secteur du Renc, au Moulin de Roupeyrac. On fait aussi beaucoup d'interventions en conseils municipaux. Donc les conseils municipaux sont des relais aussi pour nous en termes d'information, de sensibilisation. On a fait des réunions publiques, on a fait des diaporamas dans diverses communes, justement pour présenter aux gens la diversité de la faune, la richesse de la faune et de la flore locale.
D'accord. Voilà. Un dernier mot ?
Je pense que ce territoire, par rapport à ses richesses, à cette diversité, et mérite qu'on puisse mettre en place une bonne gestion et qui satisfasse non seulement le développement économique du territoire, mais qui préserve aussi cet environnement-là. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ça le leitmotiv, je dirais, de l'équilibre entre ben, les activités du territoire et son respect.
Merci Karine Lacan. C'était Le Vior et ses trésors, la gestion d'un bassin versant, une émission proposée par Virginie Pendariès.